Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Une dame qui vient de perdre son époux m'a déclaré « Je sais que maintenant il est près du Seigneur et qu'au moment de ma mort, je le retrouverai car, à mon tour, j'irai au ciel. » Pour la plupart des chrétiens, le ciel est leur destination finale. C'est le but même de leur existence, c'est leur espérance. Qu'en dit la Bible ? Cette croyance est implantée dans l'esprit des gens depuis longtemps. Ils considèrent le ciel comme l'endroit où se trouvent les âmes des fidèles qui, en présence de Dieu, sont dans un état de béatitude, une sorte d'extase éternelle, jouant de la harpe, assis ou non sur un nuage. Tant de gens croient cela, qu'il leur serait difficile d'admettre que cette croyance est fausse et qu'elle ne correspond absolument pas à l'enseignement des Écritures. Ce matin, nous allons donc examiner ce que la parole de Dieu enseigne sur ce sujet. Car dans le domaine religieux, nos croyances ne sont valables que si elles sont confirmées par les Écritures. Selon la Bible, le trône de Dieu se trouve au ciel, mais celui-ci n'est nullement la récompense promise aux chrétiens après leur mort. La Bible ne parle pas d'un ciel uniquement, mais de trois cieux. Le premier est l'atmosphère terrestre. Dieu dit que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Le second ciel représente l'espace intersidéral, c'est l'étendue du vaste univers. Dieu fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Et le troisième ciel est l'emplacement du trône de Dieu, c'est le siège du gouvernement divin. Voilà pourquoi le Christ commente « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. » Le trône de Dieu nous est décrit dans le quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse, qui nous donne un aperçu de la splendeur et de la puissance qui se dégage de ce lieu. Actuellement, le Christ se trouve au ciel. Il est avec Dieu le Père et aucun être humain n'est avec lui. L'apôtre Jean écrit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Lorsqu'il rédigea son évangile entre l'an 90 et 95 de notre ère, l'apôtre Jean ajouta ce verset aux paroles de Jésus. En effet, notre Sauveur ne pouvait pas dire « Le Fils de l'homme est dans le ciel » au moment où il se trouvait sur terre et qu'il s'adressait à Nicodème, un docteur de la loi. Jean rédigea son évangile plus de 60 ans après la mort du Christ et environ 25 ans après la mort de Marie. Jean, à qui Jésus a confié sa mère, sait de quoi il parle. Qu'est-il arrivé à tous ces patriarches, ces prophètes, toutes ces personnes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament, comme Abel, Noé, Enoch, Abraham, Moïse, David, Daniel? Ces gens se soumirent et obéirent courageusement à Dieu, malgré la persécution qui s'abattit sur la plupart d'entre eux. Sont-ils au ciel, près du Seigneur? Lisons ce que l'apôtre Paul écrit à leur sujet, environ 35 ans, après la mort et la résurrection du Christ. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tous ces grands serviteurs de Dieu ne sont pas au ciel, ils sont toujours morts. Leur esprit demeure inconscient, et le roi Salomon confirme que les morts ne savent rien. Ils ne savent rien des événements qui se sont déroulés sur terre depuis leur décès. L'homme a bien des difficultés à croire cette déclaration, parce qu'il s'accroche à ses propres idées, à celles qui lui plaisent. Après la résurrection et l'ascension du Christ, l'apôtre Pierre, accompagné des 11 autres apôtres, déclara « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, car David n'est point monté au ciel. » On ne peut être plus précis. David, un homme selon le cœur de Dieu, qui avait trouvé grâce devant le Très-Haut, n'est pas au ciel, il est inconscient dans la tombe. Ce passage des Écritures confirme donc qu'il n'y a aucune âme de défunt fidèle dans le ciel. Par conséquent, le ciel ne peut être la récompense de ceux qui seront sauvés. Si vous voulez recevoir notre étude, qui explique que le ciel n'est pas promis aux défunts, et qu'Enoch et Élie ne s'y trouvent pas, nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande et sans engagement de votre part. Mais alors, en quoi consiste la récompense accordée aux chrétiens? L'homme ou la femme qui se soumet à la volonté de Dieu, qui vit en conformité avec ses lois et ses commandements, naîtra de nouveau, vivra une seconde naissance au sein de la famille divine. Il règnera sur la terre en tant que membre du gouvernement et du royaume de Dieu. Différents passages bibliques le confirment comme nous allons le voir. Jésus a déclaré « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Toutefois, le Christ avait affirmé « Heureux les débonnaires, autrement dit les humbles, car ils hériteront la terre. » Pensez-vous que certains des élus, comme les persécutés par exemple, iront au ciel pour recevoir leur récompense, tandis que les débonnaires hériteront la terre? Pouvons-nous en conclure que le Christ se serait contredit dans son sermon sur la montagne? Absolument pas. L'apôtre Pierre nous donne l'explication de cette apparente contradiction. Il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Vous remarquerez que la récompense du vrai chrétien est réservée dans les cieux, sa récompense n'est pas le ciel. Les chrétiens devront-ils aller au ciel pour recevoir leur récompense? Jésus déclare, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Lorsque le Christ reviendra du ciel, il amènera avec lui la rétribution, la récompense qui, en attendant, est réservée dans le ciel. À ce jour, personne n'a obtenu cette récompense. Nous avons déjà lu qu'en se référant à tous les morts en Christ, Paul écrit « Tous ceux-là n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Moïse, Élie et tant d'autres n'ont toujours pas hérité de la promesse. Ils ne sont pas au ciel, et la transfiguration vue par les apôtres Pierre, Jacques et Jean n'est que la vision d'une époque future. C'est ce que nous expliquons dans une étude que nous tenons gratuitement à votre disposition. Ce n'est qu'à son retour que le Christ récompensera ses serviteurs, comme l'explique la parabole des mines. Voyons ce qu'en dit l'apôtre Luc. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Dans cette parabole, le Christ parle de lui, de son ascension vers son Père, pour se faire investir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il parle également de son retour qui aura lieu plus tard, lorsqu'il reviendra pour régner sur terre. Poursuivons le récit. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » La mine était la monnaie grecque de l'époque, mais dans cette parabole, elle représente la manière dont le chrétien aura triomphé du péché en se soumettant à Dieu et à ses lois. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçoit le gouvernement sur 10 villes. » Jésus n'a donc pas déclaré que les chrétiens recevront leur récompense au ciel. Mais leur récompense y est en réserve momentanément, parce que c'est là que le Christ se trouve actuellement. Le Christ amènera sa récompense personnellement sur la terre, où il récompensera les saints en leur conférant des postes de domination et d'autorité sur les nations au sein du royaume de Dieu. Comme nous le voyons, les saints ne sont pas destinés à régner dans le ciel, mais sur la terre. Le Christ décrète, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il ajoute, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. L'apôtre Pierre ajoute, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Quant à l'apôtre Paul, il écrit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquez que les morts ne viennent pas du ciel. Ils montent à la rencontre du Christ après avoir été ressuscités. Ce que l'apôtre Paul a écrit concorde tout à fait avec les paroles du Christ qui a déclaré qu'à son retour, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ces élus seront tous les fidèles qui, morts depuis peu ou depuis des siècles, sont inconscients dans leurs tombes dispersées partout sur cette terre. Les morts, ainsi que les fidèles vivants au moment de son retour, ressusciteront pour aller à la rencontre du Seigneur et ils régneront avec lui. C'est alors qu'il établira son trône ici-bas, comme l'explique le prophète Zacharie. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Il s'agit de tous les morts ressuscités qui, après avoir obtenu un corps spirituel, seront allés à sa rencontre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Le Christ descendra des nuées avec tous les fidèles qui seront allés à sa rencontre. Ils poseront alors les pieds sur la montagne des Oliviers. Sa première tâche sera de vaincre les nations qui s'opposeront à lui. Ensuite, il établira son gouvernement sur toutes les nations. L'apôtre Jean révèle, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voici donc la récompense de ceux qui vaincront et qui seront sauvés. Ils sont des rois et des prêtres. » J'apporterai d'autres précisions la semaine prochaine.